Les jeunes entre 11 et 14 ans, c'est de ce côté que ça se passe. Il y a une sortie. Donc vous pouvez suivre Kat qui s'en va vers la porte du fond. Amen. Merci Seigneur. Il est ressuscité.
Ouais.
Le dimanche de la résurrection. Qu'est-ce que c'est génial. Un de mes jours préférés de l'année. C'est sûr, pas à cause du chocolat, même si ça ne gâche rien. Mais waouh, voilà pourquoi on est tous là. Voilà pourquoi on est là tous les dimanches. Voilà pourquoi tous les matins notre cœur continue de battre et notre respiration est toujours là parce qu'il a vaincu la mort. Il est vivant. Et nous sommes ses enfants. Amen. Et du coup, c'est vraiment une joie pour moi de partager ce matin. Combien d'entre nous étaient là hier soir pour la soirée louange? Est-ce qu'on n'a pas vécu une soirée extraordinaire? Waouh, c'était magnifique, il y a même eu des miracles. Je ne sais pas si vous avez vu, vous connaissez le miracle des bannières. Le miracle des bannières, c'est qu'à un moment, la bannière s'approche de toi, tu es sûr qu'elle va te percuter la tête et que tu ne sais pas pourquoi, elle passe devant toi et par miracle, elle t'évite au dernier moment. C'est incroyable. J'ai vécu un miracle hier soir plusieurs fois. Non, mais c'était magnifique avec ces bannières, ces couleurs, tous ces enfants. Merci Seigneur, les jeunes qui faisaient des croque-monsieur pendant ce temps. Waouh, ça c'est le royaume de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 16. Et on va lire le début. J'aime beaucoup l'évangile de Marc, j'aime beaucoup Marc parce que Marc, c'était un disciple de Pierre, en fait. Et j'aime beaucoup avec Marc parce qu'il est très synthétique. Moi aussi, je suis assez synthétique, j'aime bien aller à l'essentiel. Certains rigolent, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment une joie de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble. Donc écoutez bien, si vous n'avez pas de Bible ou pas votre smartphone, je ne sais pas si tu as mon diaporama, il arrive, ok super. Le passage n'est pas sur le diaporama, donc si vous n'avez ni Bible ni votre Bible dans votre smartphone, fermez les yeux, c'est encore mieux, comme ça vous vous concentrez bien sur ce que je lis. Donc Marc au chapitre 16, écoutez bien, c'est très important, surtout le début. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, vinrent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. » N'ayez pas peur, en gros. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11, vous savez que Judas n'était plus là à ce moment-là, avec qui il était à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et 2000 ans plus tard, cette parole est arrivée jusqu'à nous à Montélimar et nous sommes là dans cette pièce ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Donc le titre de mon message, c'était, j'ai hésité entre plusieurs titres. Le titre, c'est « Trop beau pour être vrai ». Mais j'ai hésité avec un autre titre qui aurait pu être « Femme, femme, femme » ou « Vous les femmes ». Mais bon, Rulio Ecclesias, un dimanche matin dans une église, ça peut faire mauvais genre. Donc non, on va rester sur « Trop beau pour être vrai ». Pourquoi ? En fait, ce qui m'est arrivé quand je préparais ce message, j'ai reparcouru tous les évangiles sur ce passage-là du dimanche matin, enfin du dimanche matin, du jour de la résurrection. J'ai été marqué par un détail. Vous savez, comme c'est dingue, la Bible, vous la lisez, vous la relisez, et les mêmes versets que vous avez lus plein de fois, vous retombez dessus, et il y a quelque chose d'autre qui vous saute aux yeux. Et moi, c'est ce que ça a fait ces derniers jours, alors que je préparais ça, notamment par rapport aux femmes. Donc, on vient de lire, si vous avez prêté attention, que les femmes sont les premières qui étaient au tombeau ce matin-là. Et je me suis rendu compte que c'était loin, en fait, ce détail était très très loin d'être anodin. Il y a le verset 1 qui dit donc « quand le sabbat fut passé ». Donc « quand le sabbat fut passé » veut en fait parler du coucher du soleil du jour précédent la résurrection, le samedi, selon certaines interprétations. Pourquoi les femmes s'occupent d'acheter les huiles aromatiques. Alors on sait que d'autres, des pharisiens, on voit dans d'autres évangiles, Nicodème, etc., Joseph, ont acheté aussi des produits pour embaumer le corps de Jésus au moment de sa mort. Mais ce matin-là, c'est les femmes qui vont au tombeau. Et pourquoi c'est pas anodin ? Déjà, il y a une preuve d'amour. Pourquoi une preuve d'amour ? Jean 15, 47, donc un des autres évangiles, ces femmes sont également présentes au moment de la crucifixion. Ce qui est écrit dans Jean 15, 47, c'est qu'elles regardent où ils le mettent. Donc en fait, parmi les témoins vraiment de la mort de Jésus au dernier moment, la plupart de ces témoins étaient des femmes au pied de la croix et elles ont suivi le cortège funéraire pour voir où est-ce qu'on mettait Jésus, dans quel tombeau on le mettait. Et c'est encore elles qui sont là le matin même. Et vraiment, ça montre à quel point ces femmes-là, elles n'ont pas voulu lâcher Jésus. Je pense qu'elles étaient dévastées par ce qu'il se passait, mais c'est comme si elles ne pouvaient pas se séparer de lui. Et le matin, elles étaient encore là. Et ça montre vraiment l'amour pour Jésus, leur ami, qu'elles avaient suivi pendant toutes ces années, et leur sauveur aussi. Même si sur ce moment-là, il n'avait pas vraiment l'air d'un sauveur, parce qu'il était mort. Mais quand même, elles vont le matin au tombeau. Elles y vont avec leurs produits. Et c'est pour ça que ce qui m'a marqué, c'est ce côté tâche ingrate aussi. Bien qu'il y ait quelques hommes, il y a ces rites juifs, vous savez, autour de la mort, avec le fait d'embaumer le corps avec des parfums. Mais ce matin-là, ce sont des femmes qui vont. Et vous savez que dans mon métier, ça m'arrive régulièrement de m'occuper de gens qui sont décédés. Et oui, s'occuper d'un mort, s'occuper d'un cadavre, eh bien, il y a un côté un peu bizarre. Il faut des gens pour faire ça. Il faut bien des gens pour faire ça. Et si vous regardez dans ma profession d'infirmier, il y a beaucoup plus de femmes. Et il y a beaucoup de professions comme ça, les aides-soignantes, c'est pareil, ou d'autres. Dans ce genre de tâches-là, c'est souvent des femmes qui sont là. Et dans le judaïsme, c'était beaucoup des femmes. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, même dans notre culture. La femme est là au début et à la fin de la vie de l'homme. Vous voyez que là, les femmes sont présentes dans ce moment de mort, dans ces rites funéraires. Mais bien sûr, les femmes sont là aussi à la naissance pour donner la vie. Et c'est comme s'il y a la présence des femmes dans ces deux moments cruciaux de la vie de chaque être humain. Et ça m'a vraiment percuté, donc une preuve d'amour, mais aussi comme une tâche ingrate d'aller s'occuper d'un cadavre qui était leur ami et qui est faite par ces femmes. Il y en a plusieurs, certes, une en particulier est mise en exergue dans ce passage, on va y revenir. Et il y avait ces rites funéraires, en fait. Pourquoi cet empressement à aller à la tombe ? Eh bien, autour des tombes, il y avait des rites juifs où, en fait, des personnages importants dans le judaïsme, quand ils mouraient, eh bien, il y avait comme un culte qui leur était rendu. En tout cas, on se rendait auprès de leur tombe. Et puis, il y a des graffitis qui ont été retrouvés parce que c'était important d'honorer leur mémoire malgré leur décès. Donc, c'est aussi mêlé à la culture juive, tout ça. Et ces femmes sont aussi en train de faire cela. Et il y a un truc, d'ailleurs, je veux rendre à César ce qui est à César. Alors, je discutais avec Ophélie en stage, elle m'a fait ressortir un autre détail, une autre révélation qu'elle a eue de ce passage, et je voulais vous partager aussi ce matin par rapport aux femmes. C'est que, vous savez, dans Genèse 2,18, il est dit « L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Et pas de masochisme, pas de machisme, me trompe de mot. Ici, une aide, ce mot aide, là, dans l'hébreu, c'est le même mot qui est parfois utilisé pour décrire le Saint-Esprit qui nous aide. Donc voilà, c'est pas un mot aide, genre serviteur, genre soumission malsaine. Non, non, c'est une aide vraiment cruciale sans laquelle on ne peut pas vivre, en fait. Et Dieu décide de donner cette aide en créant Ève. Et c'est beau de voir comme, dans la suite de cet épisode, l'ange missionne et Jésus missionne ces femmes pour aller aider les disciples, pour que les disciples hommes, à leur tour, puissent recevoir la bonne nouvelle de la résurrection. C'est comme si Dieu, quand il veut nous dire quelque chose de crucial, quand il veut nous, à certains moments comme ça, qu'il y a quelque chose de fondamental, en fait, les femmes, si vous réalisez, messieurs, dames, ce matin, sont les premières sur la terre à avoir prêché l'évangile de la résurrection. Ce sont des femmes. Et Jésus a décidé qu'il en soit ainsi. Dieu a décidé qu'il en soit ainsi. Comme c'est une femme qui a été donnée à Adam pour lui permettre de vivre, tout simplement. Et comme le Saint-Esprit lui-même nous aide dans notre vie de tous les jours. Amen. C'est pas merveilleux comment Dieu fait les choses. Et voilà, c'est pas dans mes notes tout ça, mais aujourd'hui, y a le féminisme, il y a tout ça, il y a plein de choses comme ça. Et c'est comme si le féminisme mal placé, à mon avis, c'est d'essayer de rendre la femme égale à l'homme, et presque comme si la femme devait devenir un homme, vous voyez ce que je veux dire, être aussi forte qu'un homme, faire des choses aussi fortes qu'un homme. Mais en fait, non, le vrai féminisme, c'est que les femmes puissent réellement rentrer dans qui elles sont, dans leur appel, et comme des femmes, Dieu les a créées femmes, mais les a créées différentes des hommes parce qu'on a besoin, il y a un côté, il y a une part aussi de la femme dans le cœur du Père et on a besoin de cette part-là. Et c'est incroyable comme cette notion-là est vraiment montrée au moment le plus critique de l'histoire de l'humanité, le matin de la résurrection. Amen. Donc, les disciples, tout ça, c'est nous, on dit amen, c'est super et tout, mais les disciples, ils n'étaient pas trop là-dedans. Et on peut le voir, verset 11, eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Là, il s'agit de Marie-Madeleine, ils ne la crurent pas. Et dans Luc 24, dans un des autres évangiles, il est même dit, donc les disciples, ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Donc en fait, c'est sûr que le judaïsme était une culture très basée sur les hommes, très patriarcale, et c'est comme si le témoignage des femmes était vraiment de second rang, quoi. Ils ne les ont pas crues. Jésus a choisi que ce soit des femmes qui annoncent les premières cette bonne nouvelle, mais ils ne les ont pas crues. Et ça, on pourrait croire que c'est un détail pareil. Ah oui, ils ne les ont pas crues, ben normal, qui pourrait croire ? Enfin, même nous, chacun de nous dans cette pièce, est-ce qu'on aurait cru du premier coup, homme, qu'on soit homme ou femme ? Et il y a un aspect de cela qui est très très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait que ce soit des femmes qui soient les premières à témoigner de la résurrection, ça nous prouve le côté historique, la preuve historique de la résurrection. Ah bon, Mathieu, pourquoi ? Mais oui, justement pour ça. C'est parce qu'imaginez, il se passe un truc difficile à croire. Vous n'allez pas prendre le témoin le plus pas crédible dans votre culture pour annoncer cette chose. Vous allez prendre quelqu'un qui a un gros bagage, qui a des connaissances scientifiques ou dans le domaine, peu importe. Lui, il va être capable de prouver la chose. Non. Là, il plaît à Dieu de choisir des témoins totalement improbables, des gens qu'on ne va sûrement pas croire. Et c'était le cas dans la culture du peuple juif. Une témoignage à cette époque-là n'avait aucun poids dans un jugement. Et dans Deutéronome 19, on voit que pour qu'un jugement soit valide, il fallait plusieurs témoins, mais certainement pas des femmes juste qui disent comme ça une parole « Ah bon, ben, on la prend pour acquis ». Non, non, dans la culture juive, ça ne marchait pas comme ça. Il se trouve que Jésus renverse nos cultures, renverse nos raisonnements et il a plu à Dieu que ce soit des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce livre n'est pas un livre de faux. Ce livre est vrai, ça veut dire que le message qui est dans ce livre, et notamment dans les évangiles, est un message véridique. Et ce n'est pas la seule preuve de la réalité de la résurrection. Et vous savez, on parle souvent des grottes de Qumran dans les années 50, alors qu'on a retrouvé les parchemins de la mer morte, et les rouleaux notamment du prophète Ésaïe, mais d'autres aussi, qui avaient déjà prophétisé 6, 7, 8, 900 ans avant la naissance de Jésus, qu'il viendrait et qu'il mourrait. Et notamment, il y a cette prophétie... Si vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, Pierre se lève, Pierre qui a été réhabilité par son ami, son Jésus, il se lève et il prêche la première prédication publique qui est prêchée comme ça devant du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Il utilise le psaume 16, écrit 600 ans avant Jésus. Et il dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Et quand il prononce ces mots, en fait, il parle de Jésus. Il parle de Jésus qui n'est pas resté dans le tombeau. Vous avez remarqué l'image, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est les linges qui enveloppaient Jésus. Et Jésus qui n'est plus là, le tombeau qui est ouvert avec la lumière. Donc cette résurrection a été prophétisée. Et elle a été et ce détail que ce soit des femmes, vraiment c'est quelque chose encore qui conforte le fait de la preuve historique de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qui fait que notre foi aujourd'hui n'est pas basée sur des vagues rumeurs, elle est basée sur la certitude de la parole de Dieu. Amen. Et de ces événements. Waouh. Et juste sur Marie-Madeleine, je voulais attirer votre attention, c'est pas un hasard que ce soit Marie-Madeleine la première, et elle qui est particulièrement mise en avant dans ce passage. Pourquoi ? Il est dit, on l'a lu, que Jésus l'avait libérée de 7 démons. Donc en fait, elle a expérimenté la grâce de Dieu d'une manière incroyable dans sa vie. Si vous regardez la série The Chosen, c'est vraiment bien mis en avant tout ça. Mais il y a d'autres passages dans la Bible, c'est un peu flou, mais il y a plusieurs passages dans les évangiles qui mentionnent une femme, notamment en train de... vous savez, l'épisode de la l'onction, merci, l'onction à Béthanie, où elle répand des parfums sur les pieds de Jésus, dans la maison de Simon, le pharisien. Et il y a d'autres passages comme ça, on ne sait pas exactement si c'est elle, ce n'est pas dit nommément, mais on pense que c'est elle. En fait, cette Marie-Madeleine, elle avait vraiment une relation particulière avec Jésus. Certains d'ailleurs ont essayé de dire que c'était l'amante de Jésus, etc. Vous avez peut-être entendu ces théories fumeuses. Non, 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 ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible montre que Marie-Madeleine était proche de Jésus, elle était toujours avec les disciples et elle a été vraiment une des... Ben voilà, elle était au pied de la croix, elle était là le matin et Jésus l'avait délivrée de 7 démons. Jésus avait changé sa vie. En fait, la grâce de Dieu a tellement touché Marie-Madeleine qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle l'aime tant. C'est parce qu'elle a été touchée par sa grâce, touchée par son amour. Amen. Et je voulais vous lire une citation que Emmanuel m'a donné ce matin, c'est le groupe Glorious, peut-être vous l'avez lu, qui a publié ça ce matin, et j'ai trouvé ça tellement dingue que ça soit ça publié ce matin, c'est tiré d'un livre. Écoutez bien, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres, Jean, c'est l'évangile de Jean chapitre 20. Jésus a choisi de dévoiler sa résurrection aux femmes. C'est à elles qu'il a confié cette annonce de l'évangile. Ce sont elles qui sont envoyées par Jésus pour annoncer aux disciples la résurrection à toute l'Église. Pourquoi ? Parce que lorsque les hommes sont apeurés et verrouillés dans leurs angoisses, les femmes courent au tombeau. Cela dit quelque chose du courage des femmes quand les ténèbres sont là. Dans le temps entre sa rencontre avec le Christ ressuscité et la proclamation de la résurrection aux disciples, Marie-Madeleine et l'Église, car elle était la seule à avoir reçu la mission d'annoncer le mystère pascal. Toute discussion sur le rôle ou le leadership des femmes dans l'Église doit commencer par là. Ne serait-il pas bon véritablement véritablement respectueux du Seigneur que les femmes dans l'Église proclament l'Évangile le dimanche de Pâques ? N'est-ce pas elles que Jésus a choisies ? N'est-ce pas elles que Jésus a choisies dans sa liberté pour annoncer à ses frères la plus grande des nouvelles ? Merci, mesdames, pour votre foi. Grâce à vous, je peux dire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Voilà, et c'est tiré du livre 50 encouragements de Jésus. Voilà, mesdames, dans la pièce ce matin, on vous dit merci. Merci. Est-ce qu'on peut prier une seconde ? Amen, Seigneur. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord de vous lever ce matin ? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais j'ai vraiment à cœur qu'on vous honore. Seigneur, merci d'avoir créé Ève. Merci d'avoir créé les femmes, Seigneur. Tu vois, souvent dans notre société, peut-être un peu moins que d'autres, mais quand même souvent, on peut diminuer les femmes, on peut les moquer, on peut ne pas leur donner le crédit que toi, tu leur as donné, Seigneur. Mais tu as choisi que hommes et femmes soient ensemble devant toi, Seigneur. Tu as choisi de nous créer à ton image, hommes et femmes. Alors Seigneur, en tant qu'homme ce matin, je veux vraiment te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous les diminuons, où nous ne prenons pas leurs paroles à crédit, où nous ne prenons pas leurs paroles au sérieux, où nous les reléguons à un rôle qui n'est pas vraiment celui que tu leur as donné. D'être des femmes puissantes, le socle de nos sociétés, celles que tu as choisies pour la première fois pour annoncer le message de ta résurrection. Que chaque femme dans cette pièce soit bénie ce matin. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as de la valeur aux yeux de chacun des hommes présents dans cette salle ce matin. Que le Seigneur encore te restaure dans qui tu es, dans ton appel. Tu as une destinée, Seigneur. Le Seigneur te la donne et ta destinée, ce n'est pas de ressembler aux hommes, de faire les choses comme les hommes. Non, en tant que femme, avec qui Dieu a fait de toi, avec toutes tes particularités, toute ta sensibilité, toutes tes émotions, même si nous, en tant qu'hommes, on a parfois du mal à les gérer. Merci Seigneur pour les femmes parmi nous ce matin. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Il y a une deuxième chose que je voulais souligner dans ce passage ce matin. Bon, l'an prochain, ce sera une femme qui prêchera le jour de Pâques. Amen. Vous m'en prenez à témoin. On le note pour l'an prochain. Il y a une deuxième chose qui m'a sauté aux yeux dans ce passage, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire que, ben voilà, je le relis pas, mais si je vais peut-être le relire, voilà, verset 10. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes, mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. On vient de voir comme la manière dont ces évangiles ont été écrits, vraiment c'est une preuve en faveur de l'historicité, de la réalité de la résurrection. Mais ce qui est fou, c'est de réaliser, et je pense que ça aurait été pareil pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus avait annoncé aux disciples maintes fois qu'il allait mourir, mais qu'il ressusciterait 3 jours après. Et en dépit de cela, ils avaient vécu avec lui pendant 3 ans. Ils le connaissaient par cœur, ils avaient entendu ça, Jésus le prêchait de partout. En dépit de cela, ils ne l'ont pas cru. Pourquoi ? Et j'ai remarqué 3 raisons qu'on peut voir très simplement alors qu'on lit ce passage. Premièrement, la déception. Verset 10, ils étaient plongés dans la tristesse. Et souvent, dans nos vies, je pense que on a des attentes, on lit la Bible, on a des attentes, on se dit mais oui, voilà ce que j'aimerais voir, et la fin du chapitre nous donne des perspectives comme ça. Mais parfois entre nos attentes et la réalité, et ben parfois il y a un grand écart qu'on a du mal à gérer. Et je pense que les disciples avaient beau avoir entendu ça, il se trouve que leur ami était mort, était dans un tombeau. Et ils n'ont pas réussi à gérer cette déception. C'était trop pour eux. Il y avait trop d'écart. Hein? Et c'est ça, je pense, un des facteurs du fait qu'ils n'ont pas cru. Et c'est pour ça que c'est important, les amis, de gérer nos déceptions avec eux. Dieu est parfait, son plan est parfait, sa volonté est parfaite. Malheureusement, dans ce monde, nous sommes appelés à souffrir parce que ce monde est déchu, ce monde est imparfait. Et Jésus l'a dit même, vous souffrirez beaucoup tant que nous sommes dans ce monde. Par contre, il a dit aussi, je serai avec vous tous les jours. C'est pour ça que quand il y a des déceptions, quand on s'attend à quelque chose pendant n'importe quel domaine de notre vie et que la réponse à la prière, que ce qu'on aimerait qu'il se passe ne se passe pas, tout de suite retourner vers Jésus et gérer, ne pas garder ça en nous, mais le laisser sortir. Ou avec des amis, il faut que ça sorte, il faut exprimer ça, il faut que Jésus guérisse nos cœurs, parce que sinon on va passer à côté de ces révélations. Amen. Il y a aussi quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la culpabilité. Et je pensais particulièrement à Pierre, Pierre futur leader de l'Église, peut-être principal, incroyable. Eh bien, je pense qu'il y a de la culpabilité de ressentir d'avoir trahi son ami, son sauveur. Pourquoi ? Dans Luc 24, 12, il est écrit, vous savez ce qu'il a fait, Pierre, à ce moment-là ? Eh bien, il est rentré chez lui. En fait, on lui annonce que Jésus est ressuscité, il court avec Jean au tombeau, il voit que le tombeau est vide, et qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui. Parce que vous savez ce qui s'est passé avec Pierre juste avant ? Trois fois, il a renié Jésus, publiquement, il a renié Jésus. Et du coup, je pense qu'il ne peut pas dire non seulement je l'ai renié, mais en plus maintenant, il est mort. Oui, elles me disent qu'il est ressuscité, mais il n'y a personne dans ce tombeau, mais je ne vois pas Jésus. Où est-il ? Et souvent, je pense aussi dans nos vies que la culpabilité peut nous éloigner aussi des promesses de Dieu, peut nous éloigner des révélations que Dieu a pour nous. Vous savez, il y a ce verset qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Apprenons aussi à gérer la culpabilité qu'on peut ressentir. Parfois, c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner. Ça a été mon expérience. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de pardonner aux autres que de me pardonner à moi-même. Alors bien que les personnes en elles-mêmes m'avaient pardonné et me l'avaient dit. Et c'est pour ça qu'il faut grandir. La maturité de disciple, c'est d'apprendre aussi à gérer la culpabilité qu'on peut ressentir parfois. Amen. Et la dernière chose qui m'est apparue, c'est l'oubli et l'incompréhension des Écritures, des paroles de Jésus. Pareil, l'évangile de Luc, il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour. Et donc, des fois, il y a ce manque de compréhension des Écritures, ce manque de révélation qu'on peut avoir, comme si notre esprit était obscurci. Et puis, il y a aussi ce manque de ça dans nos vies, parce que comprendre les Écritures, c'est bien, mais pour les comprendre, il faut d'abord les avoir lues. Et c'est encore un encouragement, les amis, à vraiment vous remplir de la parole de Dieu, à lire ce livre chaque jour que Dieu fait. Ne me dites pas « j'ai pas le temps », ne me dites pas « c'est pas possible ». Fais ça d'abord et on verra s'il y a du temps pour le reste. Amen. Et je sais que beaucoup le font, mais je nous encourage. Rejoins-nous dans le parcours de la Bible en un an. On fait ça à plusieurs en ce moment, c'est vraiment génial. Et là, alors que tu lis, Jésus va ouvrir ton esprit, comme il est dit. Il a ouvert leur esprit, il a ouvert leur compréhension. Alors que tu lis ça, tu demandes son aide au Saint-Esprit. Et là, tu vas pouvoir recevoir les paroles de Jésus. Amen. À qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Du coup, attends, par rapport à tout ce que je viens de dire, là, ces trois choses, attention au fait que ta théologie soit basée sur ton expérience. On vit des belles choses avec Dieu dans nos vies, mais on vit aussi des choses plus difficiles et on a beaucoup d'incompréhension. Et la maturité du disciple, c'est d'embrasser la part de mystère qu'il y a dans notre foi. Mais surtout que notre théologie ne soit pas basée sur notre expérience seulement, mais basée sur la parole de Dieu. Amen, sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est fondamental. Parce que la résurrection renverse nos raisonnements. 1 Corinthiens 15, 17. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien ressuscité à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, Adam, la résurrection vient aussi par un homme. Je continue 2 Corinthiens 6:5 verset 14. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Nous devons, en tant que disciples, acquérir cette certitude, comme il est dit, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Et je vais vous passer toutes les preuves de sa résurrection. Il y en a encore plein. Il y a plein de passages, vous pouvez lire en gros, où il est dit, d'ailleurs dans les Actes, je vous lis juste celui-là. Après sa mort, acte 1, verset 3, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Et voilà, il y a des passages où, en gros, on estime qu'il est apparu à peu près 500 personnes entre sa mort, sa résurrection et le jour où il a été élevé au ciel. Ça a été prophétisé, le tombeau était vide, il est apparu donc. Les disciples ont été complètement transformés. Regardez l'impact sur l'histoire de l'humanité et du christianisme aujourd'hui avec des milliards de gens qui croient en lui. Amen. La résurrection n'est plus à prouver, elle est prouvée. Mais en tant que disciple, on doit en être tellement convaincu que l'on décide, comme on vient de le lire, de vivre pour lui, de vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Il y a ce verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et alors qu'on continue cette série sur les fondamentaux de la vie de disciple, revenons encore sur ça, que nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour lui, parce que lui est mort pour nous, il est mort pour que nous vivions. Amen. Amen Seigneur, notre vie ne nous appartient plus, notre vie est entre tes mains, elle est à toi, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur. Et Jésus, ce que j'aime c'est que, vous savez, il y a certaines facultés tristement aujourd'hui de théologie en France qui mettent tout en symbole. Ce courant libéral qui dit que tout est un symbole, que la mort, la résurrection de Jésus, c'est un symbole de la victoire de la vie sur la mort. Non, ça n'est pas un symbole. Et Jean 20, 27, Jésus va dire à Thomas, avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. C'est pas un symbole la résurrection. Jésus a dit à Thomas, viens, touche mes mains percées, touche-les. Il était à table, il a dit, mais j'ai faim, donnez-moi à manger. Jésus est un homme comme nous, il est revenu à la vie comme nous, un vrai corps. Et d'ailleurs c'est Sam qui partageait ça hier soir dans la louange, j'ai adoré quand tu as dit ça. Quand on se demande comment va être notre corps quand on va ressusciter après notre mort, vous savez, quand on passait dans la vie éternelle, eh bien on peut regarder à Jésus, comment il était, avec un vrai corps. Avec un vrai corps, glorifié, il était lumineux, mais un vrai corps. Il était à table avec ses amis, il avait eu faim, il voulait manger, profiter des bons produits de la table, et puis montrer la réalité de sa résurrection. Amen. Waouh, c'est tellement merveilleux. Et je vais pas trop tarder parce qu'on a à cœur de finir par un temps de louange. Et ça, je voulais vous le dire, et ça c'est mon ami Brice qui en parlera encore mieux la semaine prochaine, mais il utilise parfois cette expression d'avoir une gueule de sauvé. C'est un peu trivial comme expression, mais je trouve que c'est tellement important. Des fois, on a l'impression de se faire vieux, on a besoin de faire violence. Parce qu'on parle de la mort, de la résurrection, mais c'est comme si souvent, en tant que chrétien, on va rester bloqué à la mort. Et voilà, on va contempler le sacrifice de Jésus. C'est comme si c'était plus facile de rester focalisé là-dessus. Mais parfois, on compatit à Jésus dans ses souffrances, dans la mort. Mais parfois, on oublie de réaliser que cette croix, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette croix ? Non, elle est vide. Et c'est pour ça que je bénis mes amis catholiques. Mais j'ai du mal avec le fait qu'il y ait toujours quelqu'un sur la croix quand on la met. Et encore une fois, on aime nos amis catholiques. Il n'y a pas de souci. Eux, ils le vivent comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais j'aime que cette croix soit vide. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, amen, amen, Et s'il est ressuscité, ça veut dire que quand nous donnons notre vie, lui donnons notre vie, nous aussi nous sommes ressuscités. Et donc nous sommes appelés à vivre comme les ressuscités. Mais bien souvent, et moi le premier, je me regarde dans le visage, j'ai pas l'impression de voir un ressuscité. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui reste englué dans des trucs. Non, débarrassons-nous du péché qui nous enserre si facilement. La parole de Dieu nous dit, parce qu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Nous sommes vivants en lui. Amen. Donc, pensons-y à ça, les amis. Ayons des visages de ressuscité. Amen. La suite au prochain épisode pour cette partie-là. Et je voulais juste vous lire Éphésiens 2, verset 4. C'est vraiment les premiers chapitres d'Éphésiens. C'est parmi mes passages préférés de la Bible. Je ne peux pas résister de vous lire ça ce matin. Éphésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu, Jésus était mort. Mais Dieu, qui est riche en plein de compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, des fois, c'est pas toujours le cas, mais des fois, les gens nous voient avec Emmanuel, avec nos filles, même quand on était jeunes, mariés, ils nous voyaient, ils disaient, ah, vous êtes une belle famille, vous êtes un beau couple, ouais, vous avez pas galéré dans la vie, vous savez pas ce que c'est. C'est comme si parfois, et c'est vrai que c'est la tentation en tant que chrétien, un manque d'authenticité, on se fait beau le dimanche, on a le grand sourire dès qu'on passe là, alors qu'on était déprimés dans la rue, Mais non, les amis, on le redit à chaque fois, chacun de nous, si on est là ce matin, c'est par grâce. Je vous promets, vous connaissez certains des épisodes de ma vie, vous savez combien je me suis éloigné de Dieu et ce que j'ai vécu. Et je sais que c'est pareil pour chacun d'entre nous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais par grâce, ça veut dire que Jésus, ça veut dire que c'est gratuit. C'est gratuit pour nous. Ça n'a pas été gratuit pour lui. Mais du coup, c'est gratuit pour nous. Par grâce, nous pouvons être sauvés. Et nous pouvons avoir notre vie transformée. Parce que Jésus a payé le prix. Il nous a fait asseoir avec lui. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin de ce passage ? Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée. Jésus veut montrer. Et tu sais quoi ? Comme ces femmes le premier matin de la résurrection, eh bien toi aussi, Jésus veut t'utiliser pour montrer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gueules de sauvés, des visages de ressuscités. Parce que sinon tu ne vas pas... Ça ne va pas être du bon marketing. Si tu ne rentres pas pleinement dans ton appel de ressusciter, ça ne va pas donner envie. Alors que si tu es rempli de Dieu, rempli de sa présence dans ta vie, et bien là, je peux te dire que ça devient irrésistible. Et les gens vont t'accoster. Ça nous est arrivé une fois dans la rue, je me rappelle avec Emmanuel, une dame nous a accosté, nous a dit mais pourquoi vous êtes si souriant ? Mais je ne sais même pas pourquoi on souriait, peu importe, mais tu vas devenir attirant aux yeux des autres. Et parce que Jésus veut t'utiliser. Et ce que j'aime dans ce Marc synthétique, c'est que à la fin directement, donc Jésus reproche aux disciples leur incrédulité, mais tout de suite, on le relit dans la Bible. Il leur reprocha leur incrédulité, la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit. Aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. C'est ça qui est dingue, je trouve, dans ce passage, c'est la juxtaposition de ces deux choses. Jésus était assez cash et du coup, il leur reproche leur incrédulité. Vraiment, ça va pas, les gars, ça fait 3 ans que je vous explique, c'est pas possible quand même. Mais tout de suite après, il les envoie prêcher la bonne nouvelle. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Loin de là. Il n'attend pas que tu aies tout compris. Il n'attend pas que tu sois saint. Tu es saint. Mais il n'attend pas que tu ne pêches plus. Il n'attend pas que tu aies toute la maturité, que tu aies fait un bac plus 5, un master en théologie. Non, 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 non. Jésus, à partir du moment où ton cœur a été touché par lui, il t'envoie. Il t'envoie pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et tous les fruits qui l'accompagnent. Pour imposer les mains aux malades et les voir guérir, ressusciter les morts, chasser les démons, etc. D'accord ? Il n'attend pas que tu sois parfait. même si tu te dis, mais moi, qui suis-je? Moi, je... Comme ces femmes, elles étaient inadéquates dans la situation. Leur témoignage n'avait pas de valeur. Jésus a voulu les utiliser. Peut-être toi, tu te sens adéquat. Tu te dis, à mon travail, à l'école, parmi mes amis, tu te dis, mais qui suis-moi? Est-ce que vraiment, je suis un bon témoin de Jésus? Jésus n'attend pas que tu sois parfait. Juste aime Jésus. Aime Jésus. Développe ta relation avec lui. Et là, tu vas pouvoir être un témoin. Des fois, tu ne vas même pas faire exprès. Ça va venir tout seul. Amen, les amis. Mais comme Marie, Madeleine, tout ça part d'une expérimentation de la grâce de Dieu. Tout ça passe par une expérimentation de la grâce de Dieu. Alors, on va finir là. Il y a Hébreux 12, 15 qui dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Donc moi, c'est mon encouragement pour toi ce matin. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Fais des choix. Vis pour lui, vis pour Jésus. Fais les bons choix pour ne pas te priver de la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier ?